Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un artiste peut-être un peu moins connu du grand public, mais dont le crayon a littéralement capturé toute une époque, le caricaturiste Raoul Cabrol.
Bonjour.
Et pour nous guider, on a une source vraiment fascinante, c'est un article qui s'appelle « Le caricaturiste Raoul Cabrol », écrit par Guy Mazard.
Oui, et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'où il vient cet article.
Exactement, ça provient du bulletin d'une association de collectionneurs de cartes postales, le Carte Club Aveyronnais. Guy Mazard, c'est le rédacteur en chef, c'est un passionné, donc ce n'est pas le regard d'un historien d'art, c'est celui d'un collectionneur.
Et ça change tout, ça nous force à regarder son œuvre comme les gens de son époque en fait, sur des cartes postales, dans les journaux, à portée de main.
Notre objectif donc, c'est de redécouvrir ce personnage. Alors commençons justement par ses origines. Raoul Cabrol naît en 1895 à Bozoul, en Aveyron. Fils de domestique, on est loin, très loin, du tout Paris qu'il va conquérir.
Ah oui, complètement. Et Guy Mazard, dans son article, insiste beaucoup là-dessus. C'est peut-être même la clé pour tout comprendre. Il écrit que Cabrol gardera toute sa vie une sympathie naturelle pour les êtres et les choses simples.
Cette origine, ça ancre son regard, en quelque sorte.
C'est ça. Il aura toujours ce regard un peu extérieur, un peu ironique sur les puissants. Et ce regard, il s'est aiguisé très tôt et pas forcément de manière facile. Son parcours scolaire, par exemple, est chaotique. L'article mentionne qu'il supporte pas du tout l'internat.
Au point de s'enfuir.
Oui, il fait une fugue à 16 ans. Il part pour Montpellier.
C'est un acte de rébellion, quand même. Et c'est à Montpellier qu'il va trouver sa voie, un peu par nécessité, j'imagine.
Totalement. Il survit avec des petits boulots, et pour passer le temps, ou peut-être gagner un peu d'argent, il s'installe à la terrasse des cafés, et il commence à croquer les gens.
Et c'est là qu'intervient la rencontre décisive.
Exactement. Le récit de Mazars parle d'une rencontre avec un caricaturiste américain. On n'a pas son nom, mais son influence est immense. Il ne lui apprend pas à dessiner, Cabrol a déjà le don.
Il lui apprend à voir.
C'est exactement ça. Il l'oriente vers la déformation, l'exagération pour révéler quelque chose. Pour trouver, et la formule dans l'article est magnifique, les imperfections que la nature s'est ingéniée à inscrire sur les figures de ses contemporains.
Il apprend à lire les visages. Mais avant de pouvoir vraiment exercer son art, l'histoire, avec un grand H, le rattrape. C'est la Première Guerre mondiale.
Oui, et de la manière la plus brutale. Il est mobilisé, et en 1916, sur le front, il est gazé.
Ça va le marquer à vie, physiquement.
Oui, c'est une vraie fracture. Il en gardera une insuffisance respiratoire, une invalidité reconnue à 80%, mais ça le forge aussi, philosophiquement. Ça fait de lui un pacifiste acharné, viscéral. Son opposition aux marchands de canons plus tard, elle vient de là.
Et il continue de dessiner, même dans les tranchées?
Il n'arrête pas. L'art devient un refuge, une façon de témoigner.
Après la guerre, c'est la montée à Paris. Son ambition, c'est de devenir journaliste, pas encore artiste. Il s'installe au but de Chamon, il se marie en 1918, et là, il y a un détail qui m'a frappé dans l'article.
Ah oui?
Sur son acte de mariage, alors qu'il peine à joindre les deux bouts, il se déclare déjà dessinateur.
C'est fou, hein? La conviction est déjà là. Mais bon, ses débuts parisiens sont très difficiles. Il publie quelques dessins, mais c'est précaire. Pour vivre, il trouve un boulot de retoucheur photo.
Et pas n'importe où.
Non, chez Henri Manuel, le photographe du tout Paris politique et artistique. Donc, la journée, Cabrol gomme les défauts des célébrités sur les photos.
Et la nuit, il rêve de les révéler avec son crayon. Le paradoxe est incroyable.
Et c'est là, dans cet atelier, que tout bascule. Le récit de Guy Mazars est presque un conte de fées. Un jour, Henri Manuel tombe par hasard sur les dessins que son employé fait pour lui.
Et là, c'est le choc.
Le mot utilisé dans l'article, c'est « ébloui ». Il est complètement stupéfait par la force, la justesse de ses caricatures.
On imagine la scène. Manuel, qui passe ses journées à lisser les images, découvre ce talent brut qui fait tout l'inverse.
Et il a cette intelligence de comprendre tout de suite le potentiel. Il ne fait pas que le féliciter, il lui propose d'exposer dans sa propre galerie, rue du Faubourg Montmartre.
Une opportunité inespérée. L'exposition s'appelle « Masques et sourires » et elle ouvre en février 1922.
Et le succès est immédiat, foudroyant.
Le tout Paris se bouscule pour voir ses dessins. De Mistinguett à Clémenceau, en passant par le boxeur Georges Carpentier. Même le ministre de l'Instruction publique s'y rend. Mais qu'est-ce qui a provoqué un tel engouement? La source nous donne une piste en citant une critique de la revue Comédia. Le journaliste écrit, et c'est très parlant, « Les personnages sont tellement ressemblants qu'on les reconnaît sans les avoir jamais vus. Ces dessins en disent plus qu'aucune monographie. »
Voilà, c'est ça la clé. Cabrol ne déforme pas pour le plaisir. Il déforme pour atteindre une vérité psychologique. Il ne dessine pas le visage, il dessine le caractère.
Il perce le masque social, d'où le titre de l'expo. Et la conséquence, c'est qu'il devient célèbre.
Du jour au lendemain, les commandes affluent, sa carrière est lancée. Et ce succès va prendre une forme qui est au cœur de l'article de Guy Mazard, la carte postale.
Oui, on entre dans le domaine du collectionneur.
Dans les années 20, c'est une production massive. Guy Mazard parle d'un éditeur au logo un peu mystérieux, JP ou PJ. Et il estime qu'il pourrait y avoir plus de 300 cartes différentes. C'est colossal.
C'est l'équivalent d'un compte Instagram qui deviendrait viral aujourd'hui, en fait.
Exactement. Ces dessins ne sont plus seulement dans les journaux, ils sont partout. Dans les kiosques, dans les bureaux de tabac, ils circulent, ils s'échangent.
Ama de la société de l'époque. L'article montre que la plus grande partie est consacrée aux sportifs. Pourquoi cet intérêt ?
Parce que Cabrol, avec son instinct de journaliste, a compris que les sportifs, ce sont les nouvelles idoles du XXe siècle. Ce sont les premières superstars mondiales.
Un matériau de rêve pour un caricaturiste.
Absolument. Et quand on regarde les exemples, il ne dessine pas l'action, il dessine la légende. Prenez Johnny Weissmuller, bien avant Tarzan.
Ah oui.
Il le croque avec ce corps parfait, cette confiance presque arrogante. Ou la tenniswoman Suzanne Lenglen. Il ne dessine pas son coup droit, il saisit son allure de diva. Chaque carte est un mythe en miniature.
C'est une galerie de héros modernes. On trouve aussi les cyclistes, les frères Pélissier, le boxeur, Jack Dempsey. Ils capturent vraiment l'esprit des années folles.
Et au-delà du sport, il y a le spectacle, bien sûr. Maurice Chevalier, Cécile Sorel et même les Marx Brothers, dont il saisit le chaos.
Et la politique?
Évidemment. Ces cartes du maréchal Foch, des présidents de Poincaré ou Doumergue, ce sont des objets politiques qui diffusent une image souvent irrévérencieuse. En fait, être croqué par Cabrol devient une sorte de consécration.
Ce qui nous amène à son engagement politique plus direct. À partir de 1926, il devient l'illustrateur attitré de l'Humanité.
Oui, on le retrouve à l'Assemblée nationale en train de dessiner les députés sur le vif. C'est là qu'il perfectionne son coup de crayon. Mais ce que l'article de Mazard montre très bien, c'est que son engagement n'est pas celui d'un militant aveugle.
Comment ça ?
La source a exhumé un rapport de police de 1932.
Attendez, la police le surveillait ?
Ah oui. Et ce rapport le décrit comme indiscipliné et note qu'il cherche avant tout à tirer profit de son art.
Qu'est-ce que ça nous dit de lui ?
Que ce n'était pas un vrai communiste ?
Je pense que ça nous dit qu'il chérissait sa liberté par-dessus tout. Il a des convictions de gauche, bien sûr, mais il refuse le dogme. Il est artiste avant d'être militant. Il navigue entre les mondes et c'est ça qui lui donne sa lucidité. Et cette indépendance, il va la mettre au service d'un combat majeur, l'antifascisme. Et c'est là que son histoire devient internationale, avec cette fameuse caricature d'Hitler.
C'est un moment charnier, oui. Il publie une caricature d'Hitler dans un journal luxembourgeois. Hitler n'est pas encore au pouvoir, mais la menace est là. Et le dessin est si percutant que l'entourage du futur dictateur porte plainte.
Une plainte officielle ? Ça devient un scandale diplomatique.
Exactement. Et loin de le calmer, ça le radicalise. Son crayon devient une arme. Ses portraits du Führer deviennent, selon les mots de l'article, féroces.
Féroces ?
Oui. Mazard précise qu'il l'assimile à un chien enragé, toute canine dehors. Ce n'est plus de la satire, c'est un combat. Mais même là, son indépendance d'esprit reste.
La preuve, c'est sa réaction au pacte germano-soviétique.
La trahison ultime pour lui. Ce pacte entre Staline et Hitler, c'est insupportable. Il quitte le parti communiste, sur le champ et pour toujours.
Puis la guerre éclate. Pendant l'occupation, il est évidemment en danger et il se réfugie dans son Aveyron natal. Mais c'est une période tragique pour son œuvre.
Oui, un vrai drame. Sa maison parisienne est réquisitionnée par les Allemands et une grande partie de ses dessins originaux qu'il avait tenté de cacher est découverte et détruite.
Une perte inestimable.
On ne saura jamais tout ce qui a disparu. Mais Cabrol ne reste pas inactif. Il rejoint la résistance locale.
Et que peut faire un dessinateur dans la résistance ?
Il utilise ses compétences. On a parlé de son premier métier, retoucheur photo. Eh bien, ce savoir-faire lui permet de fabriquer de faux papiers d'identité pour les résistants. Son talent pour manipuler les images, qui servait à embellir les célébrités, sert maintenant à sauver des vies.
Le parcours est incroyable. À la Libération, il revient à Paris, il retrouve sa place dans la presse, au Franc-Tireur, au Canard Enchaîné. Il se remet à croquer les nouvelles têtes du pouvoir.
Et le paysage a changé. Il s'attaque au général de Gaulle, à Picasso et même à un très jeune ministre qui s'appelait François Mitterrand. En 1947, il publie son seul album, en quatrième, sur les figures de la Quatrième République. Et l'article note quelque chose de très juste à ce sujet.
Même ses victimes finissaient par apprécier ses croquis. Comment c'est possible? Parce que, comme le dit Mazard, être caricaturé par Cabrol ajoutait à leur célébrité. Le pire, à ce niveau, ce n'est pas d'être moqué, c'est d'être ignoré. C'était une preuve de son importance, une forme de reconnaissance.
En somme, on a l'histoire d'un enfant de l'Aveyron, parti de rien, qui, par la seule force de son regard et de son crayon, est devenu l'un des chroniqueurs les plus lucides de son temps.
C'est tout à fait ça. Et pour vraiment saisir l'homme derrière l'artiste, la conclusion de l'article de Guy Mazard est parfaite. Il cite la nécrologie de Cabrol, signée par son ami Pierre Loubière.
Et que dit-elle ? Elle est poignante, elle résume tout le paradoxe du personnage. De cet homme dont le crayon était si lucide, si terrible, si féroce parfois, rayonnait la douceur, la bonté, la délicatesse. La férocité du trait n'était pas de la méchanceté.
Non, c'était une exigence de vérité au service d'un humanisme profond.
Une férocité lucide au service de la douceur. C'est une très belle conclusion. Et ça nous laisse, au fond, avec une question pour aujourd'hui. En voyant cette capacité qu'avait Cabrol à percer les masques, à voir au-delà de l'image officielle, on se demande ce qu'il penserait de notre monde. Si ses cartes postales étaient le réseau social de son époque, comment son trait si incisif capturerait-il les personnalités qui saturent nos écrans aujourd'hui ?